OK, donc, j'aimerais vous demander de tourner dans Abdias. Vous savez, hein, c'est là qu'on a lu pour l'introduction à notre symphonie de la prière. Et j'aimerais qu'on lise simplement les versets 3 et 4 qui sont vraiment au cœur du message de l'Éternel à cette nation dont la ville, la capitale est Petra. Mais c'est Édom, c'est Ésaü, il y a vraiment un lien ici avec Israël parce que c'est les deux jumeaux, hein, Jacob et Ésaü. Ésaü a donné le peuple d'Édom. Et regardez ce que ça nous dit, ça va être le sujet de notre message. Le premier mot, c'est quoi? L'orgueil. On va parler de ça ce matin. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, « Qui me précipitera jusqu'à terre? » Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu te placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Seigneur, on vient devant toi s'humilier ce matin, Seigneur. Tu vois comment l'orgueil est la part de chacun de nous ici. Si on nie qu'on a de l'orgueil, c'est par orgueil qu'on dit ça, Seigneur. Et l'orgueil a cette capacité de se voiler. Souvent, on est les derniers à se rendre compte qu'on est orgueilleux. Nos zones d'orgueil, on ne les voit pas. Seigneur, alors on te prie d'ouvrir nos yeux, de jeter ta lumière, la lumière de ta parole sur ces endroits de nos vies, de nos cœurs, où est-ce qu'on peut se tromper nous-mêmes. Mais Seigneur, on désire ça pour s'humilier devant toi parce qu'on sait que lorsqu'on s'abaisse devant toi, tu nous élèves. Lorsqu'on s'humilie, tu nous fais grâce. Donc, c'est notre désir, Seigneur. On ne veut pas s'égarer, mais on veut, Seigneur, retourner à toi, humblement. Alors, Seigneur, qu'on vienne à toi ce matin, tel qu'on est, avec, Seigneur, le parcours où est-ce qu'on est rendu, afin, Seigneur, que tu nous amènes plus loin. Et s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas encore, qui résiste, c'est par orgueil, qui résiste à l'appel du salut, on te prie que tu transperces le cœur de cette personne, que tu rencontres, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc, dans Abdias, c'est déjà rendu au fond, tout le monde a vu. Fait que ça vous aide à comprendre, géographiquement, je vais vous donner un petit résumé historique de cet endroit, mais on peut dire que le livre d'Abdias est un court livre qui en dit long sur l'orgueil. Parce que Dieu a suscité le prophète pour dénoncer cette nation, la nation d'Édom, qui était vraiment là, qui se croyait littéralement au-dessus de ses affaires, littéralement, parce qu'ils étaient élevés, ils étaient dans des rochers, ils se croyaient par leur position géographique, par la fortification naturelle de laquelle ils jouissaient, ils se croyaient dans une forteresse imprenable, impénétrable. Pourtant, sa capitale, Petra, comme vous avez vu sur la feuille, qui est l'image du bas, sa capitale, Petra, a été prise à plus d'une reprise de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas vigilant, il se croyait en sûreté, et c'est précisément à cause de ça qu'ils sont tombés. Il y avait une fausse sécurité, une fausse assurance. Eux qui se croyaient, de par leur position géographique en sûreté, passaient complètement à côté du fait que cette sécurité-là, entre guillemets, était complètement minée par le fait que l'Éternel était contre eux. Ils s'étaient élevés contre l'Éternel et c'était ça leur plus grande vulnérabilité, c'était ça le plus grand danger. L'Éternel était contre eux à cause de leur orgueil, de leur arrogance. C'est ce qu'on a lu dans les versets 3 et 4. Et là-dessus, on peut lire aussi, vous savez, c'est cité dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, dans Proverbes 3, 34, ça dit de l'Éternel qu'il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Et on apprend aussi, dans Jacques, la situation, ça le dit autrement dans le Nouveau Testament, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. Et qu'on considère que l'Éternel, c'est lui notre seule vraie sécurité. Mais l'orgueil nous aveugle. L'orgueil a cette capacité de nous rendre les moins conscients de ce qui est notre plus grand danger. Imaginez-vous être le moins conscient de ce qui est notre plus grand danger. On se croit à l'abri, on pense que tout est beau, comme on dit en québécois, que tout est safe, alors que le plus grand danger est là et il nous guette. Et c'est ça, vraiment, qui est important à comprendre avec le livre d'Abdias. Et on voit Christ dans les Écritures. Ben Christ, ici, on le voit comme étant la lumière sur notre orgueil. Dieu, à travers la prophétie d'Abdias, jette la lumière de sa parole sur l'orgueil d'Édom. Et Dieu veut faire ça aussi dans nos vies. Et c'est tellement crucial à nos vies, puis à celles de nos relations familiales, interpersonnelles, dans notre Église. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un problème spirituel, une forteresse, OK? Un problème spirituel duquel on ne s'est pas repenti et auquel notre cœur, face auquel notre cœur s'endurcit, s'est endurci avec le temps. Savez-vous quoi? Ça peut faire des ravages pendant des années dans notre vie, dans nos relations interpersonnelles, dans notre couple, notre famille, notre église, sans jamais que nous soyons conscients de la source du problème. Évidemment qu'on voit les conséquences. On serait aveugle de vraiment pas le voir, mais on est aveuglé à la source du problème. Que souvent, beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup voient, et même parfois nous communiquent le problème, mais on n'est pas saisi, on n'est pas convaincu de la gravité de ce problème, parce que on traite... ben c'est pas si pire, on trouve des excuses et tout ça. Et ça fait des problèmes. Je vais vous donner des exemples. Savez-vous qu'on peut traiter les autres avec de la colère? Être rude, être dur avec les autres. Moi, ça m'a montré ça dans ma relation avec ma propre famille. Puis j'ai demandé pardon à ma famille, comment des fois, à cause que j'avais des choses dans mon... Puis le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus, j'ai été... je les aime, puis je veux le mieux pour eux autres, mais le Seigneur m'a ouvert les yeux que je traitais avec eux autres, pas en leur criant des bêtises, mais j'avais une rudesse, puis tout ça, c'était pas la douceur de Christ. Il a fallu que le Seigneur m'ouvre les yeux là-dessus, puis que je m'humilie là-dessus pour que le Seigneur puisse travailler. On peut aussi tolérer dans notre vie un esprit de convoitise dans notre cœur, où est-ce qu'on n'est jamais satisfait et qu'on veut toujours plus. Ou on peut aussi accepter le fait que lorsqu'on a des problèmes, quelque chose, on jette tout le temps et systématiquement le blâme sur les autres, puis on n'accepte pas notre responsabilité. Plus à suivre là-dessus après-midi, dans le message d'après-midi. Mais tout ça pour dire que la puissance de l'orgueil, c'est ça, c'est qu'on peut faire des choses. Être animé d'un esprit dans nos relations interpersonnelles, dans notre relation avec Dieu, et ne même pas s'en rendre compte, ne pas en être saisi, ne pas voir la gravité de ça. Il faut que vraiment ça nous ouvre les yeux là-dessus. Comme je vous dis, là, pendant des années, tu sais, les enfants sont petits, là, on est impatients, tout ça. Je suis sûr que je suis le seul qui est impatient avec mes enfants, là, je vous le confesse ce matin, ça n'arrive pas à personne, là. Mais, je veux dire, ça porte du mauvais fruit. Si la façon qu'on se relie les uns aux autres, c'est dans cette colère ou avec cet orgueil qui jamais accepte le blâme qu'il jette toujours sur les autres, au bout du compte, ça va amener vraiment du mauvais fruit. Puis la puissance de l'orgueil, c'est ça. C'est pour ça que c'est le plus grand des péchés, ça nous voile. Ça nous couvre les yeux. On ne se rend pas compte du plus grand des problèmes. Et là-dessus, je crois qu'on doit faire un parallèle avec ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 15 et 16. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Et là, ça parle des Juifs par rapport à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Un voile sur leur cœur, ils lisent la parole, puis ils ne voient pas Christ dans les Écritures, ils ne voient pas leur Sauveur. Mais n'est-ce pas vrai qu'on peut aussi avoir le même problème, avoir un voile sur notre cœur par rapport à ce que Dieu veut nous montrer, à ce qui est évident dans nos relations avec les autres, puis que c'est en Christ qu'il est élevé, il faut que le Seigneur lui-même nous convainque, nous le montre. C'est ça vraiment toute la puissance de l'orgueil. Et lorsqu'on est un enfant de Dieu, merci Seigneur, il chérit l'esprit qui fait habiter en nous. Regardez ce que ça dit écoutez ce que ça dit dans Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Dans le verset précédent, ça dit que Dieu, c'est avec jalousie qui chérit l'esprit qui habite en nous. Puis dans nos relations interpersonnelles, ça dit de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Vous savez, dans tous les quoi que ce soit, dans ma vie individuelle ou dans ma vie relationnelle, le seul espoir, c'est que Christ jette sa lumière sur mon orgueil.
Amen.
Sinon, je vais m'auto-détruire, puis je vais détruire les autres autour de moi. Et il est venu en mission pour ça. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour briser les chaînes du péché. Donc, on a de l'espoir ce matin à cause de lui. Mais j'aimerais qu'on voit, pour justement jeter la lumière de Christ sur notre orgueil, qu'on voit c'est quoi les effets de l'orgueil dans nos vies. On le voit avec la prophétie d'Abdias. Donc, quatre effets de l'orgueil qui sont illuminés par Christ, la lumière sur notre orgueil. D'abord, on l'a vu dans les versets 3 à 4, l'orgueil nous rend vulnérables. Ça dit, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers et qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Autrement dit, je suis imprenable, je suis invincible, je suis dans un endroit de grande sûreté. Mais regardez ce que Dieu dit au verset 4. Quand tu placerais ton nez aussi haut que celui de l'aigle, quand tu placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'orgueil du cœur égare. C'est ce qu'on voit au verset 3. Puis comment ça arrive? Ça arrive lorsque, de par notre propre faute, notre propre orgueil, lorsqu'on donne accès comme ça au péché dans notre vie de différentes façons. Vous savez que par orgueil, pourquoi l'orgueil nous rend vulnérables? Parce qu'avec l'orgueil, on donne accès à l'ennemi. D'abord, on donne accès à Satan. Ça dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès, ne donnez pas du terrain à Satan. Lorsqu'on est en colère par notre orgueil, on donne accès à Satan. Lorsqu'on ne pardonne pas, ça dit que nous n'ignorons pas les desseins. Si on a à pardonner quelqu'un, on pardonne devant Christ parce qu'on n'ignore pas les desseins de Satan qui veut se servir du manque de pardon pour aller miner nos relations puis infecter notre cœur. Aussi, le mensonge donne accès à Satan. Satan est le père du mensonge. Lorsqu'on vit du mensonge dans l'hypocrisie, on donne accès à Satan. En fait, l'orgueil reproduit la nature même de Satan en nous. On lui ressemble avec notre orgueil. Donc ça, c'est la première façon que ça nous rend vulnérables, donner accès à Satan lui-même. Mais savez-vous aussi que l'orgueil donne accès à la chair? Écoutez ce que ça dit dans Romains, au chapitre 8, versets 5 à 8. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Ça s'élève en ennemi contre Dieu, l'affection de la chair, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'orgueil nourrit les passions qui sont dans nos membres. D'où viennent les querelles? D'où viennent parmi nous les luttes? D'où viennent les querelles, n'est-ce pas, de vos passions qui convoitent dans vos membres? Donc, la chair donne accès, ça nous rend vulnérables. Pourquoi? Parce que on ne marche pas par l'esprit, mais par la chair lorsqu'on donne accès aux passions de notre chair comme ça, et ça nous égare. Évidemment, une autre façon qu'on est vulnérable de par notre orgueil, non seulement ça donne accès à Satan, ça donne accès à la chair, mais savez-vous aussi que l'orgueil donne accès au monde dans notre vie? On lit dans 2 Pierre au chapitre 1, ici ça nous parle de la grâce de Dieu qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Écoutez aussi 1 Jean, dans le même sujet, où donner accès au monde. Ça nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. » L'orgueil nous égare en court-circuitant l'œuvre de Dieu dans notre vie. Savez-vous, l'orgueil et la foi, ça s'oppose. L'humilité l'incrédulité aussi, ça s'oppose. La famille de Dieu, c'est l'humilité puis la foi. Avec le diable, la chair, le monde, c'est l'orgueil puis l'incrédulité. Et lorsque je n'ajoute pas foi à ce que Dieu dit, lorsque je ne réponds pas par la foi à ce que Dieu m'envoie, ben je donne accès au monde parce que j'agis comme le monde. Le monde, quand il arrive des choses, ils n'ont pas la réponse de la foi, ils ne connaissent pas Dieu. Ils agissent humainement, selon comment un humain ça répond. C'est ça qui, dans notre vie, donne accès au monde. C'est qu'au lieu de penser, de marcher selon les voies de Dieu, on s'égare dans l'égarement des impies. Et là-dessus, je vous lis 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. » C'est sorti ce matin dans le temps de prière, beaucoup. « Tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Vous avez peut-être deviné, mais ce que je viens de vous dire ici, Satan, la chair et le monde, ce sont les trois ennemis du chrétien. Et vous connaissez 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est quoi la volonté de Dieu? C'est l'humilité. Puis l'humilité, c'est d'accepter ce qu'on n'accepterait pas autrement. L'humilité, c'est d'accepter ce qui nous fait mal. L'humilité, c'est d'accepter d'être dans une position de vulnérabilité. Si on fait un vote à main levée, là, puis on fait un moment d'honnêteté, là, qui veut être dans une position de vulnérabilité? Il n'y a pas personne. C'est pas dans notre nature humaine, on n'aime pas être vulnérable, parce que vulnérable, ça veut dire exposé au danger. Mais juste pour vous dire comment c'est trompeux l'orgueil, on pense qu'on est vulnérable lorsqu'on est humilié devant Dieu, alors qu'on est dans l'endroit de la plus grande sécurité. Lorsqu'on est vulnérable, c'est quand on est exposé à Satan, à la chair et au monde. C'est là qu'on est le plus vulnérable. Et Dieu, qui nous aime, il veut nous restaurer et on peut y aller de la façon douce en s'humiliant nous-mêmes. Ou Dieu peut aussi faire la job lui-même en lui-même nous humiliant. Mais l'idée, c'est que s'il y a de l'orgueil, ça va détruire ce processus-là. Ça va détruire le pont entre notre vulnérabilité et la grâce de Dieu. Je donne un exemple. Savez-vous, on peut prendre deux personnes, OK? Imaginez deux personnes totalement imaginaire, qui vivent un même événement, une même situation. Okay? Les deux passent à travers, je sais pas, un conflit familial, OK? Ils vivent une grande difficulté. Deux personnes différentes, mais on a deux résultats opposés en fonction de la réponse qu'ils ont. Tout dépend de comment ils vont répondre à l'affliction, à l'épreuve qu'ils vivent. Un qui répond à l'orgueil, qui l'égare, l'autre qui s'humilie, qui retourne à son père et qui est restauré, comme les deux fils prodigues. Puis prodigue, puis il y en a juste un qui a été restauré. L'autre, il était resté dans la maison, pourquoi il était misérable? Dieu est bon, il est plein de grâce pour ceux qui s'humilient sous sa main puissante. Mais la Bible aussi qui dit que c'est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Lorsqu'on s'enorgueillit, oh, c'est terrible, parce que Dieu est vivant et tout-puissant.
Amen.
Ça m'amène au deuxième effet de l'orgueil. Non seulement l'orgueil nous rend vulnérables, mais aussi nous rend aveugles. Regardez versets 5 à 7. « Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé! » Comme ses trésors sont découverts. Puis regardez verset 7. « Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. » Ce qu'on lit dans ces versets-là, ça allait mal. Il y avait le jugement de Dieu qui était là, qui s'exerçait contre Édom, puis il ne s'en rendait même pas compte. L'orgueil nous rend aveugles. Non seulement l'orgueil nous rend vulnérables, mais l'orgueil nous rend aveugles. Et n'est-ce pas ce que Jésus a dénoncé chez les pharisiens, chez les leaders spirituels lorsqu'il était sur terre? N'est-ce pas ce que les prophètes constamment proclamaient? Ah, vous avez de l'assurance en ça, l'Égypte, la Syrie, on va tout va bien aller, puis tout ça. Puis Dieu leur dit non, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous en aller tout droit vers votre destruction. Ils étaient aveugles à ce qui était le plus dangereux dans leur vie. Et c'est une grande vérité sur la puissance de l'orgueil, elle nous rend aveugles. Vous connaissez l'histoire, justement, de cet aveugle dans Jean 9? Qu'est-ce que ça dit? Puis Jésus... OK, bon, une fois que l'aveugle a retrouvé la vue dans Jean 9, Jésus leur donne Jésus avait tout le temps une leçon spirituelle. Justement, il parle aux leaders d'Israël par rapport à cet homme aveugle qui avait été rejeté par ces gens-là. Jésus leur dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient, qui ne voient point, et que ceux... Pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Le monsieur, il voyait pas, il est devenu une illustration, il voyait pas, puis il a reconnu le Seigneur. Autrement dit, il n'était pas sauvé, il a été sauvé parce qu'il a vu sa condition, il a vu le Seigneur pour qui il est. Et les pharisiens, les leaders, qui étaient ceux qui devaient voir parce qu'il y avait la parole, il y avait la lumière de la parole, eux autres, ils voyaient, il y avait la lumière de la parole, sont devenus aveugles. Ils ne voyaient pas. Pourquoi? À cause de leur orgueil. Puis quelques pharisiens... était avec lui, ayant entendu ses paroles, lui dire, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Ils ont dû regretter d'avoir posé la question. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour que cela que votre péché subsiste. » Parce qu'ils se croyaient, ils croyaient qu'ils voyaient, alors qu'ils ne se rendaient même pas compte. Eux, les gardiens des Écritures, les champions de Dieu de l'époque, rejetaient avec violence ceux qui venaient à Christ. Cet homme, ils l'ont rejeté. OK, l'aveugle, là, dans Jean 9, ça a causé la controverse parce que c'était tout qu'un miracle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Là, il voulait savoir c'est qui t'a rendu une main. Puis il dit, ben là, je sais pas trop. Tu sais, plus ça allait, plus c'était évident que c'était Jésus. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont rejeté. Vous savez quoi? C'est un grand moment de la grâce de Dieu dans la vie de cet homme. Quand il a été rejeté par la religion et reçu par Christ. Parce qu'aussitôt que c'est arrivé qu'il a été rejeté par la religion, Christ était là. Puis il va le voir. Puis il dit, c'est qui t'a fait ça? Il dit, je sais pas, Seigneur. Puis là, Jésus s'identifie. Puis il dit, je crois. Et il adora. Et dans l'humilité comme ça, il a reconnu celui qui l'avait guéri et sauvé. Et ces gens-là, les leaders, ont rejeté avec une grande violence les gens les plus vulnérables. Cet homme qui était un aveugle. Mais en plus, ils ont rejeté avec véhémence le Messie de leurs Écritures par orgueil. Et là, on peut jeter la pierre aux pharisiens. Vous savez, on ne devrait jamais trop leur jeter la pierre vite parce qu'elle nous revient en face assez raide. Parce que Dieu leur a donné ces choses pour notre édification. Nous avons tous un pharisien en dedans de nous autres. Nous sommes tous orgueilleux comme eux autres. Qu'on ne pense pas qu'on est mieux qu'eux autres. On a une nature adamique comme eux autres. Et quelqu'un qui devient obsédé par les problèmes et les péchés des autres, souvent devient complètement inconscient, ou même peut-être insouciant, qui devient acerbe, hostile aux autres dans ses relations, puis il les détruit. Ça dit dans le Proverbe 14:1. Non, j'ai mis ça où, 14:1? Ah oui, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est possible d'avoir plein de bonnes intentions, de dire, ah, c'est ça qu'il faut faire, mais on détruit tout sur le passage. Ah, on a fait la bonne affaire, mais tellement de la mauvaise manière qu'on a tout détruit au passage. C'est ça que ça fait l'orgueil, ça nous rend aveugles de voir, en voulant faire la bonne chose, j'ai tout détruit ce qui est sur mon chemin. Qu'est-ce que ça donne au bout du compte? Ça donne pas pantoute la bonne chose. D'où l'importance de la parole de Dieu, la lumière de la parole. La lumière de la parole va nous montrer, elle sonde les cœurs. C'est l'épée à deux tranchants qui sonde les intentions et les pensées du cœur. Si on est justement sur cette voie de, dans notre grande bonne volonté, essayer de tout rendre tout le monde correct, qu'on ne se rende pas comment on est en train de tout détruire, Dieu va mettre le doigt sur le bobo si seulement on arrive devant lui humblement, devant sa parole, et qu'il nous... éclaire là-dessus. Ça dit, justement, dans le psaume 119, connaissez-vous le psaume 119, 9? Je sens ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On a tellement besoin de la lumière de la parole parce que c'est ça qui nous fait voir, nous qui sommes aveugles. C'est tellement important ce qu'on considère ce matin. Et vraiment, l'orgueil détruit l'image de Dieu en nous, sa beauté. Parce que on refuse de se regarder dans le miroir de la parole. Vous savez, quand on se regarde dans le miroir de la parole, est-ce que c'est tout beau ce qu'on va voir? Non. Mais sauf que c'est là qu'on va être attiré par la beauté de Christ, qu'on va être attiré à voir quelque chose de meilleur, de mieux. Mais il faut qu'on se regarde, il faut qu'on s'humilie et dire « Wow, c'est pas beau ce que je vois. » Écoutez Jacques à ce sujet-là, le miroir de la parole. Ça nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. » Ça, c'est l'orgueil, les faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, dans ses relations avec les autres. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça m'amène au troisième effet de l'orgueil dans nos vies. Non seulement l'orgueil nous rend vulnérables, nous rend aveugles, mais là, je vais employer un mot. L'orgueil nous rend abrutis. Être abruti, là, la définition, vous irez voir. Regardez, on va lire le verset, puis ça va vous aider à comprendre. Verset 8. « N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. » Être abruti, c'est perdre nos capacités cognitives, de ne plus penser clairement, d'être nono finalement, mais perdre l'intelligence. L'orgueil nous rend abrutis. Et là, c'est là le verset, Job 28:28. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. L'orgueil se croit intelligente. Et c'est pour ça que ça produit des personnes les plus repoussantes qui aiment à proclamer haut et fort leur ignorance et leur aveuglement spirituel. Parce qu'on devient littéralement abruti spirituellement. On se croit smart alors qu'en réalité, on est insensé. Savez-vous qu'il y a des gens qui se font un sport, un jeu, de nous étaler leurs connaissances théologiques ou des choses qui se débattent dans le domaine chrétien, et souvent, elles ont raison. Souvent, elles amènent des points valides. Elles amènent des questions qui peuvent être vraiment pour notre considération, mais dans leur aveuglement, ils n'ont pas l'intelligence de reconnaître que leur approche, leur attitude et le fruit de leur invective sont néfastes et nocives, puis empreintes de la sagesse qui est d'en bas. Terrestre, charnel, diabolique, un zèle amer, un esprit de dispute, et non pas celles qui viennent en haut, qui recherchent la paix et qui sèment la paix parmi ceux qui recherchent la paix. Et donc, c'est quoi la différence? La différence, c'est l'orgueil. La différence, c'est d'avoir l'intelligence de reconnaître la réalité des choses. Contraster l'approche que je viens de décrire, d'arriver à tout le monde, puis de donner tous nos bons points, puis tout ça. Comparer ça avec la douceur de Christ. Et avoir la beauté, l'attirance de sa simplicité. Écoutez ici, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Des fois, c'est mieux d'être simple puis de ne pas avoir toute la grande intelligence, mais d'avoir l'humilité qui est la vraie intelligence. Savez-vous quoi? Moi, les gens de qui j'ai le plus appris dans ma vie, souvent, ce n'est pas les gens qui ont tous les diplômes puis toutes les grandes choses théologiques qui nous regardent de haut avec leur grande connaissance. Des fois, c'est des gens bien simples qui ont les vérités les plus profondes et les plus simples sur lesquelles on revient et on revient à différentes étapes dans notre vie. Je suis pas en train d'être anti-intellectuel. Dieu nous a donné une intelligence, puis Dieu nous a donné des facultés qu'on est appelé à utiliser. Mais ça nous dit aussi que l'amour édifie, mais... excusez, j'ai pas parti ça, je l'ai pas noté ici, mais la connaissance enfle. La connaissance, hein, on peut facilement s'en aller dans l'orgueil avec ça, mais l'amour édifie. Pourquoi? Parce que l'orgueil détruit la pensée de Christ en nous. Christ, là, c'est lui-même la parole incarnée. C'est l'intelligence même. Mais il y a quelque chose de beau, de simple, d'édifiant dans tout ce qui est de sa pensée. Et l'orgueil détruit ça en nous en la remplaçant par une pensée humaine, terrestre, diabolique. Parce que les relations qu'on a, l'édification mutuelle, dans toutes ces choses-là, l'important, c'est pas nécessairement d'avoir raison, mais de donner raison à celui, Dieu, qui confond, qui fait taire tout raisonnement. Pensez à ça. Des fois, on aime ça avoir raison, mais au bout du compte, savez-vous quoi, on a peut-être eu raison, mais on a perdu l'essentiel. Est-ce qu'on a amené la personne plus proche de Christ? Est-ce qu'on a amené la lumière de la parole de Dieu dans ce qu'on disait? Ou c'est juste nous qui avons eu raison, puis on peut se dire, hey, je l'ai remis à sa place? La pensée de Christ, c'est de donner toujours raison à lui. Je vous lis là-dessus un passage que j'aime beaucoup dans le Proverbe 21. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Que Dieu, l'intelligence qu'il nous a donnée, qu'on s'en serve pour lui. L'intelligence, c'est d'abord s'éloigner du mal. Si notre intelligence nous amène à se vautrer dans le mal, on ne s'en sert pas comme Dieu veut qu'on s'en serve. Finalement, ça amène au quatrième effet de l'orgueil. L'orgueil nous rend vulnérables, nous rend aveugles. L'orgueil nous rend abrutis, mais aussi l'orgueil nous rend insensibles. Regardez versets 10 à 14. À cause de ta violence contre ton frère, Jacob sera couvert de honte, sera exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers amenaient en captivité son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sang sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repais pas ta vue au jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Ne porte pas la main sur les richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Édom se réjouissait du malheur d'Israël. Il en prenait un malin plaisir. Ça dit qu'il y avait de la violence contre son frère, parce que oui, c'est son frère. C'est Jacob et Ésaü, ils sont issus du même père. Et au verset 12, on voit qu'il a fermé le cœur à sa détresse au jour de son malheur. Il regardait ça comme un spectateur sans rien faire. Alors que son frère était humilié, l'autre en prenait un malin plaisir. Et ça aussi, ça fait partie de notre nature adamique. Est-ce qu'on se réjouit lorsque quelqu'un avec qui on a un différend? Quelqu'un nous a donné bien de la misère quand finalement on en prend pour son rhume. Puis là, vous savez de quoi je parle. On est tous pareils. Quelqu'un nous a donné bien de la misère puis finalement est humilié. Est-ce qu'on se réjouit de ça? Puis on dit, ah! Elle a bien ce qu'elle mérite. C'est dans notre nature adamique, oui, il y en a que ça colle plus à eux, selon eux, leur propre propension. Mais est-ce que ça va avec l'œuvre rédemptrice de Christ? Est-ce qu'au lieu de se réjouir, on ne devrait pas dire « Oh, c'est triste, puis j'espère que ça va produire le fruit de la vie de Christ. J'espère que ça va produire ce que Dieu veut produire dans la vie de cette personne-là. » Ou est-ce qu'on se réjouit simplement en disant « Elle a bien eu ce qu'elle mérite. » L'orgueil détruit les relations interpersonnelles de cette manière-là. Elle nous rend insensibles. elle nous positionne contre les autres. Pourquoi? Parce qu'on déloge Dieu avec l'orgueil, en se mettant nous autres au centre. Dieu n'est plus au centre de la relation, c'est nous autres. Puis là, ça fait toutes sortes de dommages collatéraux. Autrement dit, l'orgueil détruit la tendresse de Dieu en nous. Elle nous dépouille de sa compassion, de sa miséricorde, puis nous rend durs et implacables. Parce qu'on se prend pour Dieu. On dit « Ah, il y a bien ce qu'il mérite. » C'est qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution? » C'est Dieu qui sait comment parler aux gens. Puis Dieu sait comment, comme dirait M. Lalonde, il sait comment parler le langage de chacun pour se faire comprendre. Mais lorsqu'on se prend comme ça pour Dieu, on défigure son image en nous et on ressemble à l'ennemi qui se réjouit du malheur de l'autre. Encore là, matière à réflexion. Je veux conclure avec les versets 15 à 18. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront et avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü, ça c'est Édom, sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Il n'en restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. C'est une loi spirituelle ici, la loi de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème. Soit selon l'orgueil, soit selon l'humilité. Et je le répète, Dieu dit qu'il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Ça nous dit aussi dans Proverbe 1, 32, « La résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. » Mais au-delà de tout ça, j'aimerais terminer avec ceci. OK, j'ai parlé de l'orgueil, mais je ne veux pas qu'on termine ça en étant pris dans nous-mêmes, en se voyant simplement, oui, on se regarde dans le miroir de la parole. Puis on veut que Dieu nous montre notre orgueil, que Christ jette sa lumière sur notre orgueil. En passant, j'espère que ce message-là, vous n'avez pas trouvé ça donc bon pour la personne qui n'était pas là ou la personne qui aurait donc bien eu besoin de l'entendre. Peut-être, oui, mais est-ce que vous avez vu que vous avez besoin de l'entendre? Parce que ça aussi, c'est l'orgueil quand on pense que les autres... On peut avoir raison, là. Sûrement que quelqu'un qui est pris dans un fiel amer, un esprit de dispute, a besoin d'entendre ces vérités-là. Mais on a tous besoin ce matin d'entendre ces choses-là. Mais je veux terminer avec le fait que Dieu est plus grand. On l'a vu au début, hein, quand même, que Édom aurait voulu s'élever au plus haut, même jusqu'aux étoiles. Dieu dit, moi, je vais t'en précipiter. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand. Écoutez quelques versets que je vous donne en rafale. Ici, ça nous parle de l'Éternel. Job 26, 12. « Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il brise l'orgueil. » Ézéchiel 32, 12. « Je ferai tomber la multitude par l'épée des vaillants hommes, tous les plus violents d'entre les peuples. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. » Néhémie, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Job 5, 12, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Autrement dit, comme autant que l'orgueil peut s'élever et se penser au-dessus, Dieu est plus haut. Aussi haut puisse s'élever l'orgueil de l'homme, Dieu est plus haut, plus grand, plus fort, mais surtout plus rempli de grâce. Là où le péché de l'orgueil s'élève comme une montagne, la grâce surabonde et est capable de tout submerger ça pour faire de quoi de meilleur, de plus beau. Et c'est ça la grande valeur. C'est ce qui rend la grâce de Dieu tellement précieuse. Et qu'il n'est pas tellement pas à mépriser par orgueil, justement, mais à chérir comme un trésor. L'orgueil, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'orgueil, on l'a vu, ça fait toutes sortes de... Ça porte toutes sortes de mauvais fruits. Ça nous rend vulnérables, ça nous rend aveugles, ça nous rend abrutis, ça nous rend insensibles. Mais Dieu est capable de faire quelque chose avec des gens comme nous autres qui sont orgueilleux. Sa grâce surabonde, et c'est pour ça que c'est tellement important. Et si vous êtes ici puis vous n'êtes pas encore sauvé, lavé dans le sang de Jésus, sauvé par le seul sauveur, celui dont le nom est au-dessus de tout nom, et le seul qui peut sauver, c'est un trésor que vous devez chérir, le salut qui est en Jésus-Christ. Il est accessible seulement par la petite porte. Le chemin étroit, il faut s'humilier. Et c'est une porte qui est faite basse pour qu'on s'approche dans l'humilité. On n'est pas sauvé en arrivant haut comme ça. On est sauvé en s'humiliant et en reconnaissant qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes et que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. Et enfant de Dieu ici, la grandeur, la valeur de la grâce de Dieu, qu'elle réchauffe nos cœurs. Qu'on voit que, oui, on a eu tellement dans nos vies, puis on a subi aussi de la part des autres. On va voir ça après-midi aussi. Ça nous fait mal l'orgueil, ça nous fait mal le péché. Puis des fois, on peut en vouloir tellement, on peut être blessé, puis on peut essayer de se venger jusqu'à la fin de nos jours, puis on va être les plus misérables. Pourquoi? Parce qu'on répond à l'orgueil, puis à l'orgueil, puis on fait juste avancer dans la destruction. Mais la grâce de Dieu nous pousse hors de l'orgueil. La grâce de Dieu a une puissance qui expulse cet orgueil lorsque simplement on s'humilie, qu'on va à Dieu tel qu'il est, et nous tel que nous sommes. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse, alors que je vais prier, puis ensuite je vais vous laisser l'occasion de le faire. Merci Seigneur de ce que tu es. Le Dieu qui parle à ce peuple et d'hommes qui s'est élevé, qui se croyait dans une si grande sécurité. Mais Seigneur, tu as jeté la lumière sur leur orgueil. Et encore Seigneur, aujourd'hui, en 2022, en ce 25 septembre, tu jettes la lumière sur notre orgueil. Seigneur, on veut s'humilier devant toi. Et on veut reconnaître que notre orgueil a fait tellement de mal et aussi l'orgueil des autres nous a fait beaucoup de mal. Mais on veut, Seigneur, venir à toi sachant que tu fais grâce aux humbles. Que si on s'humilie devant toi, c'est là que les écluses des cieux s'ouvrent, c'est là que les trésors de ta grâce nous sont ouverts. Ah, qu'on ne soit pas insensé et qu'on méprise cette grâce ce matin. Que chacun pour notre part, devant toi, on s'humilie et qu'on voit que tu es plus grand que notre orgueil. Tu es plus grand que tous les dommages que ça a pu faire dans nos vies et que les autres aussi ont pu nous faire. Comment on s'est fait du mal avec ça? Comment Dieu, toi, tu es au-dessus et tu transformes le mal en bien. C'est à toi qu'on regarde, Seigneur, c'est toi qu'on invoque. Et si quelqu'un est ici encore non sauvé, qui n'a pas encore la vie de Christ, ah Seigneur, que ta grâce brise le mur de l'orgueil et que la personne vienne à toi simplement par la foi. Crois que tu rémunères, que tu récompenses, que tu sauves ceux qui viennent à toi humblement. Seigneur, on s'en remet en tes mains, au nom de Jésus. Amen.